Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Nous accueillons aujourd'hui Daniel Jouette, grand maître d'honneur de l'ordre, et Mathieu, qui est le plus jeune apprenti de notre fédération. Daniel Jouette, bonjour.
Bonjour Hervé.
Après des études de médecine, vous avez exercé en qualité de psychiatre. Vous avez été initié le 9 février 1974 dans une loge à Rennes et vous y avez assumé différentes responsabilités. Puis vous avez été élu au niveau national de notre fédération avant d'occuper des responsabilités au niveau international au sein de notre ordre. Grand maître adjoint en 2002, puis grand maître en 2007. Depuis 2012, vous êtes grand maître d'honneur. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hervé.
Mathieu, vous avez 22 ans et vous êtes étudiant dans le domaine de la sécurité. Vous avez été initié au sein d'une loge du droit humain à l'âge de 19 ans et vous êtes le plus jeune membre de notre ordre. Nos interventions du jour ont donc deux parcours distincts. Mais l'échange de ce matin montrera aussi sûrement beaucoup de points communs entre vous, Daniel, et vous, Mathieu. Vos perspectives nous apporteront des éclairages sur des thèmes chers aux francs-maçons et je suis convaincu que ce qui prévaudra avant tout dans votre échange, ce sont les valeurs et les idées qui nous unissent. Vous avez choisi tous deux un premier thème qui est celui des motivations qui ont été les vôtres au moment de votre entrée en franc-maçonnerie. Daniel, quelle attente et quel espoir aviez-vous au moment de votre entrée en franc-maçonnerie il y a maintenant 50 ans, presque jour pour jour ?
Je dirais que le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité a toujours été pour moi un idéal à construire avec et pour tous les êtres humains. Quand j'étais étudiante, le militantisme politique dans un parti assez radical a fini par m'épuiser. Le besoin d'un questionnement spirituel s'est imposé. Les échanges avec des francs-maçons proches de moi m'ont éclairé et ils m'ont conseillé d'entrer en franc-maçonnerie pour prendre un autre chemin sur lequel on rencontre le « connais-toi toi-même » de Socrate dans un lieu qui nous sort du quotidien pour un temps. Là, soumis au silence, non pas un silence vide mais un silence profond et intime, on apprend à écouter vraiment et non plus seulement à entendre. C'est rapidement devenu pour moi un lieu d'apaisement et de ressourcement. Cela permet d'aller vers un dépassement de soi et de concevoir différemment les rapports humains et le monde.
Mathieu, le contexte historique est différent pour vous puisque vous avez été initié en 2022. Mais vos motivations se rapprochent peut-être de celles que Daniel vient d'évoquer. Que cherchiez-vous en rejoignant la franc-maçonnerie ?
Eh bien, j'étais moi aussi en quête de sens. Depuis l'adolescence, je sentais un grand besoin de m'élever moralement, spirituellement et intellectuellement. Très vite, j'ai voulu apprendre à mieux me connaître, à mettre davantage de sens dans ma vie. Je me suis toujours posé des questions existentielles. Il fallait bien qu'un jour je trouve certaines réponses. Par curiosité, j'ai assisté un jour à une conférence publique du droit humain. J'ai beaucoup apprécié la qualité des réflexions, des échanges, et j'ai demandé mon admission. Après 2 ans de travail, j'ai l'impression d'avoir déjà progressé, mais je sais aussi et surtout que le chemin est encore long.
Deux époques éloignées, mais finalement, un même idéal et des attentes proches. Daniel, vous évoquiez la méthode maçonnique. Nous savons qu'elle fait partie de l'intime et qu'elle ne peut, pour cela, être décrite précisément. Mais pouvez-vous nous dire, à titre personnel, comment cette méthode à la fois initiatique et symbolique a agi et agit encore sur vous ?
Le travail initiatique, effectivement, relève du vécu et de l'expérience personnelle de chacun. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'accéder à quelques révélations à caractère mystique, mais plus fondamentalement, d'être à la recherche de notre propre humanité. Le véritable secret maçonnique se trouve au cœur de chaque franc-maçon par le lent travail d'évolution qu'il tente d'accomplir dans le vécu de la loge, dans la confrontation fraternelle régulière des frères et sœurs. La transmission se fait par les symboles et il appartient à chacun de les interpréter, de les intégrer dans son propre vécu. Comme ces symboles ne nous appartiennent pas, mais nous dépassent, ils permettent aux francs-maçons de se relier aux autres. En maçonnerie, il n'y a pas d'interprétation dogmatique. Ce qui est valorisé, c'est au contraire le développement de l'esprit critique et du respect de l'autre. C'est cet esprit critique qui permet d'avancer, de travailler et de transmettre après 50 ans de pratique maçonnique.
Mathieu, vous parliez du travail accompli depuis 2 ans. En voyez-vous déjà les effets et les perspectives ?
Les tenues sont pour moi une véritable bouffée d'oxygène dans un monde trop mouvementé, dans lequel le citoyen se retrouve vite en infobésité. J'ai appris ou réappris à écouter l'autre, à mettre plus de nuances dans mes pensées et mes prises de position. Je pense que la force du travail initiatique et symbolique permet la tolérance et l'ouverture d'esprit. Ceci dit, dans la vie de tous les jours, je me méfie un peu de ce mot de tolérance. Il peut parfois amener à ne plus accepter la singularité et la différence. On parle parfois d'un ministère de la vérité, tout le contraire de la tolérance, et je me dis qu'il n'est pas si loin. Au contraire, la franc-maçonnerie permet de vivre réellement cette valeur de tolérance en la pratiquant, grâce au travail sur soi et à l'écoute des autres.
Effectivement, la tolérance revêt une importance primordiale en franc-maçonnerie. Nous rejetons fermement toute forme de fanatisme, qu'il soit politique, idéologique ou religieux, car ces extrêmes, nous le savons, engendrent le despotisme, le totalitarisme ou l'intégrisme. Mais on peut se demander jusqu'à quel point nous devons tolérer l'intolérance d'autrui. Devons-nous, au nom de la liberté de conscience, accepter toutes choses, même celles qui sont considérées comme intolérables ? Daniel Jouette, quel commentaire feriez-vous sur ce sujet ?
Cela m'interroge sur la définition de ce qui est intolérable. Qu'est-ce que la tolérance ? Comme le disait Voltaire, c'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs. Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature. Or, cette conscience de nos limites qui fonde la tolérance s'est perdue. Cela a abouti soit à une condescendance vis-à-vis de l'autre, soit à cette tolérance tiédasse qui s'érige en valeur universelle du respect de tout et finalement de n'importe quoi. N'oublions pas effectivement que la tolérance peut tout tolérer, sauf l'intolérable. Pour cela, il faut rappeler les principes de liberté et d'égalité qui l'encadrent. Si elle est détachée de ces principes, la tolérance se vide de sens et peut s'avérer dangereuse. Si elle est élevée au rang de valeur suprême, la tolérance justifierait crime, génocide, mutilation, puisque c'est l'opinion ou la croyance de ceux qui les commettent. Nous devons savoir toujours mettre en résonance ces valeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance, la laïcité et l'humanisme au service de tous, mais dans le respect de chacun.
On le voit avec notre devise « liberté, égalité, fraternité » que vous mentionnez, Daniel, la frontière entre ce qui se vit dans nos loges et le monde tel qu'il existe est donc très poreuse. Qu'en pensez-vous, Mathieu ?
Tout va très vite dans notre monde. En loge, au contraire, on prend le temps. L'objectif de la franc-maçonnerie est de chercher à améliorer le monde en se connaissant mieux soi-même. En loge, et c'est aussi pour cela que j'ai fait le choix de rejoindre le droit humain, nous avons aussi des débats sur le politique, le social, le religieux. C'est cet équilibre des réflexions entre le symbolique et le sociétal qui m'a séduit. C'est crucial pour moi, car on vit avant tout dans la société, et je suis moi-même engagé en tant que citoyen.
Vous vous retrouvez donc également sur ce sujet de l'engagement actif du franc-maçon en dehors du temple, Daniel et Mathieu. Je voudrais parler maintenant plus généralement de notre obédience. La Fédération française du droit humain n'a pas vocation à intervenir directement dans le champ de l'action politique, on en est d'accord. Mais on peut s'accorder également sur le fait que son rôle est d'éveiller les consciences sur des sujets de société. Il s'agit de proposer des pistes de réflexion, mais sans être dogmatique ou strictement affirmatif et péremptoire. Daniel ?
Les frères et sœurs travaillent au sein de leurs ateliers sans jamais oublier que notre ordre est essentiellement et avant tout initiatique. Il ne prend donc aucune position officielle sur le plan politique ou religieux. Mais c'est l'action de ses membres qui s'inscrit au sein de la collectivité humaine, ici et maintenant. Certains membres ont fait le choix d'être acteurs dans la cité et ambassadeurs des idées humanistes. mais il n'y a pas d'injonction de l'ordre. Le respect de la dignité humaine est à l'horizon éthique des francs-maçons. Il suffit pour cela de penser et d'agir par soi-même pour l'amour de l'humanité.
Et entendre les sursauts du monde profane exige d'aller bien au-delà de nos frontières. Notre vocation internationale est ancienne, puisqu'elle s'est imposée lors du premier convent international en 1920, il y a plus d'un siècle. Daniel, en votre qualité de grand maître d'honneur de l'ordre, vous avez beaucoup travaillé pour favoriser cet aspect international. Je vous ai d'ailleurs rencontré en Afrique il y a quelques années de cela.
Oui, c'est vrai Hervé, c'était au Sénégal, je crois. Je rappellerai que dès l'origine, en 1893, nos fondateurs ont souhaité un ordre international. En 1920, le premier congrès international de notre ordre a eu lieu et les délégués présents venaient de pays éloignés, parlaient des langues différentes et avaient des opinions religieuses et politiques très diverses. Malgré cela, ils ont réussi à formuler une déclaration de principe et une constitution internationale qui les relierait dans une œuvre commune. C'était il y a plus de 100 ans. Depuis, cette dimension internationale perdure. Cela génère une telle richesse d'échanges entre nos cultures. Pour nous, la conscience d'un devoir qui invite à prendre part à l'universel est très présente. La conscience d'appartenance de tous à une humanité commune est très précieuse. Mais il est aussi nécessaire de favoriser les possibilités de cohabitation entre des êtres humains qui tiennent à leur spécificité et à leur identité. Ces différences collectives et individuelles sont un des biens les plus précieux de l'humanité. Et c'est à elles que l'on doit nos capacités de création, d'adaptation et d'évolution. Je ferai un lien avec notre combat pour la défense de la laïcité, que je définirai comme étant une philosophie de la vie en commun, fondée sur l'acceptation de l'autre dans toutes ses composantes pour permettre la meilleure gestion possible de la cité.
Notre époque a vraiment besoin d'esprits qui circulent en effet, et je dirais qu'en plus d'être des passeurs de traditions, d'idées et d'engagement, nous devons aussi être des passeurs de frontières. Mathieu, cet aspect international de notre ordre a-t-il joué dans votre choix de rejoindre le droit humain ?
Oui Hervé, cela a compté. Comme beaucoup de jeunes, je me sens avant tout citoyen du monde et j'aime voyager pour aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures et d'autres idées. Je pense que la rencontre est un enrichissement réciproque et qu'il faut essayer de toujours saisir la pensée et les sentiments de l'autre. Avec une curiosité généreuse, ça permet de trouver ce qu'il y a de général dans le particulier et ce qu'il y a d'essentiellement humain dans une différence qui n'est finalement qu'apparente.
Je souhaiterais terminer en évoquant deux autres actualités qui sont en lien. La journée internationale du 8 mars consacrée aux droits des femmes et l'entrée dans notre constitution du droit à l'avortement. Il y a encore beaucoup à faire, hélas, pour mettre fin aux violences, aux discriminations dont les femmes restent victimes. Qu'en pensez-vous, Daniel, vous qui avez suivi et participé activement à l'évolution de cette émancipation des femmes ?
L'égalité des hommes et des femmes est loin d'être acquise, même si des progrès ont été faits. Cette égalité est une des motivations majeures de nos fondateurs au XIXe siècle. Ils ont créé notre ordre mixte dans un monde maçonnique qui était alors réservé aux hommes. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient persuadés que des hommes et des femmes seraient capables de développer leurs valeurs humaines grâce aux confrontations, sans craindre le travail et la convivialité maçonnique en mixité. Mais le combat continue.
Qu'est-ce que cela vous évoque, Mathieu, qui êtes plus jeune ? Les mentalités vous semblent-elles évoluer dans le bon sens sur les droits de la femme et l'égalité ?
Au même titre que d'autres causes, je rêve d'un futur où cette journée du 8 mars n'aurait plus lieu d'être. Mais c'est encore un combat de tous les jours, non seulement pour défendre les acquis des générations précédentes, mais aussi pour permettre aux femmes d'acquérir de nouveaux droits, ou simplement les mêmes droits que les hommes. Pour ce qui est de l'avortement, je regrette que certains responsables religieux interfèrent avec ce droit qui relève avant tout de la liberté individuelle. Ils persistent en général à avoir une vision rétrograde de la femme. Plus généralement, je constate un certain regain de masculinisme qui s'exprime de façon très virulente, notamment sur les réseaux sociaux. Les algorithmes y sont pour beaucoup avec les contenus qu'ils relayent. Ce virilisme se retrouve aussi parfois dans les discours de personnes jeunes que je connais. Cela est peut-être lié à une certaine part de la culture qui a des relents machistes ou sexistes. C'est un combat de chaque instant qui appelle à la plus grande vigilance.
Merci ma très illustre sœur Danielle Jouette et mon très cher frère Mathieu pour cet échange. Je terminerai en mettant à la réflexion de nos auditrices et auditeurs cette phrase de Georges Martin qui disait en 1900 « Soyons les édificateurs de temples à la lumière et à la vie ». Ce propos d'il y a 124 ans reste d'actualité et doit continuer à nous éclairer. Nous remercions Dali Yaha à la technique, Jean-Luc Reynaud à la réalisation et Claire Princignon à la coordination. Thank you.